pardon, à Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Bruno de Jésus-Marie, un carme, qui est mort en 1962 et qui a laissé sa marque en plein 20e siècle par son intérêt pour les saints en particulier. Il a d'ailleurs écrit une énorme vie de Saint Jean de la Croix dès 1929, sur laquelle il est revenu plus tard avant de mourir, en y ajoutant certains détails qui tenaient un peu, peut-on dire, de la psychologie, car il s'est beaucoup intéressé à la psychologie des saints. Il n'a pas craint d'avoir une action féconde tout en étant un carme, les carmes pratiquant l'oraison 2 heures par jour, en plus de l'Eucharistie, de l'Office, d'énormes temps de prière. Je sais que c'est aujourd'hui la fête de Saint-Luc que nous célébrerons l'an prochain. Saint-Luc était originaire de Syrie, comme dit le prion en église, un médecin, un homme de lettres, qui s'est converti tout comme le père Bruno Jésus-Marie, qui s'appelait Jacques Froissart, qui était un grand converti. Et Saint-Luc est devenu le compagnon de Saint-Paul dans ses tournées missionnaires, comme on sait. Et c'est à Jérusalem qu'il a connu les apôtres, puis la Sainte Vierge, qui a inspiré le texte du 3e évangile où il raconte la naissance de Jésus. Il est aussi l'auteur des Actes des apôtres, Saint-Luc, qui raconte les débuts de l'Église. Et à travers le père Bruno de Jésus-Marie, que nous fêtons aujourd'hui, lui qui est mort un 16 octobre, le 16 octobre 1902, à 70 ans, nous allons voir la conversion, comme celle de Saint-Luc, et son intérêt pour la culture et la foi, et qui a écrit, comme Saint-Luc, des études extrêmement intéressantes de toutes sortes. Jacques Froissart, c'est pas Froissart, mais bien Froissart, avec un I dans les milieux, est né à Bourbourg, dans les Flandres françaises, là, tout près de la Belgique. Il est né le 25 juillet 1892. Par son père, il se relie d'ailleurs par les Froissart, à Jean Froissart, que vous avez peut-être vu dans vos livres d'histoire, qui est né à Valenciennes vers 1337, et qui a été un très grand chroniqueur. Son nom est dans tous les dictionnaires. En 1902, donc à 10 ans, ses parents le font entrer comme interne dans une institution, l'institution Notre-Dame-des-Dunes à Dunkerque, où il suit le cycle normal des études secondaires, ça va de soi. Et c'est dans la chapelle, je le mentionne parce que c'est dans la chapelle de cette institution, le 25 mai 1903, qu'il fait quand même sa première communion. Mais comme bien de nos enfants, voyez-vous, il a près de 11 ans, il va se distancier. Tout de même, la veille de cette première communion du 25 mai 1903, il note ce souhait dans son petit carnet, son journal, si vous voulez. L'avenir, oui, l'avenir. Je serai prêtre si le bon Dieu le veut. Et c'est ce qui va lui arriver, mais à travers bien des détours. La même année, son père meurt d'une congestion cérébrale. Alors, dès ses premières années d'études, il s'intéresse à fond à la littérature. Un peu comme Saint-Luc, probablement, et particulièrement à la poésie. Et durant l'année scolaire 1906-1907, il confectionne, il a 14-15 ans à peu près, il confectionne pour son usage une sorte d'anthologie, je trouve ça très sympathique, car j'ai déjà fait la même chose quand j'étais jeune, une espèce d'anthologie de ses ferveurs littéraires d'adolescent. Alors moi, il y avait Gertrude Stein, il y avait Valéry, etc. Lui, c'est Lamartine, Vigny, Hugo, Musset, Théophile Gautier, Le Comte de Lille, Baudelaire, Sully Prudhomme, Moréas et Rostand. C'est l'époque. C'est aussi le début d'une crise morale profonde, je vous l'ai dit. Au sortir du collège, à 16 ans, en 1908, il veut se libérer de ce qu'il appelle cette longue contrainte de la foi catholique. Il cesse toute pratique religieuse, puis il s'absorbe dans la littérature, la musique. C'était déjà un peu comme ça quand j'étais jeune. Je me souviens de Pierre Mercure qui en avait fait autant, qui était un grand ami que j'aimais beaucoup, Pierre Mercure, qui a laissé son nom à une salle à Montréal, ce compositeur merveilleux qui était Pierre. C'était le mari de Monique Mercure, en 1909, il perd la vue subitement. Étrange. Il est tout jeune. Il est totalement aveugle pendant plusieurs mois. Alors il s'adonne au violoncelle et c'est à travers l'épreuve physique et morale, une recherche obscure de Dieu, mais ça marche pas son affaire. Durant ses années d'adolescence, puis encore par la suite, Jacques Froissart sera redevable heureusement à l'abbé René Montuit, un excellent prêtre qu'il a connu à Notre-Dame-des-Dunes à Dunkerque au cours de ses études. Et il va être redevable d'une aide très précieuse là, qui vient de ce prêtre. Et à cette époque de sa vie, c'est à ce prêtre qu'il se confie à nouveau. Puis il trouve en ce prêtre une compréhension intelligente, respectueuse et affectueuse aussi, on peut dire, de ses problèmes. Or, ce prêtre s'efforce de l'attacher à la personne du Christ. Oui, à la personne du Christ, c'est pas du tout une vague énergie, comme on dit souvent, ou à la déité, ou à un romantique infini, là. C'est pas ça du tout. Mais ça va pas, et la guérison du fait qu'il est aveugle survient, c'est fantastique, mais l'influence des œuvres de Nietzsche, qui a déjà affirmé que Dieu était mort, pèse fortement sur Jacques Froissart. C'est un peu dû à son amour peut-être de l'Allemagne et de la musique, et celle de Beethoven surtout. Il aime beaucoup les choses allemandes, qui sont magnifiques et splendides. Il veut être libre. Et l'hymne qu'il prépare, écrit-il, c'est l'éternel baiser, avec un B majuscule, que la nature nous offre. Alors ça tombe dans le panthéisme. Sa devise, c'est « fac et spera », « agis et espère ». Puis il ajoute « le peu que nous pouvons façonner de notre propre science est une coupe neuve », c'est ce qu'il dit en 1911. Et pendant une grande mélancolie, un pessimisme profond s'empare de lui. Il exprime dans plusieurs poèmes, je vous lirai pas ça, je vous en lis quatre vers. « J'habite le pays de l'immuable hiver ». Jamais il n'est venu du lointain infini un doux frisson d'amour. Jamais dans cette brume, devant nos sombres yeux, le Créateur n'allume un peu de jour béni. Alors, c'est vraiment pas drôle pour un jeune d'écrire des choses comme ça. En 1913, à 21 ans, il se rend à Berlin faire la connaissance d'une jeune intellectuelle allemande avec laquelle il correspond et qui lui a révélé Nietzsche en 1910. Alors, il rêve un mariage possible. Il rentre en France complètement bouleversé. Et cet amour se termine brusquement. Ça marche pas. Le pessimisme s'accroît. Il écrit « Nous fuyons la forme de la mort. Pas elle-même, car le but de nos plus hauts désirs est la mort. » Le but de nos plus hauts désirs est la mort. C'est tragique écrire ça à 21 ans. Il écrit ça à l'automne 1913. Il collabore alors activement à la rédaction d'une nouvelle revue littéraire. Et le jeune directeur en est Maurice Bataille, qui va devenir un ami. C'est un incroyable Maurice Bataille. Jacques Froissart y écrit des nouvelles. Et il écrit, croyez-le pas, une nouvelle qui s'appelle « L'an 2000 ». Ben oui, « L'an 2000 ». Oui, en 1914. Il écrit aussi « L'aveugle », il a été aveugle. « Talunda ». Et tout ça, ces nouvelles paraissent donc au cours de 1914. En octobre de cette même année, 1914, il est incorporé dans l'armée. C'est la guerre, hein? Vous vous souvenez, la guerre 14-18. Il est libéré le 1er janvier 1915, c'est pas long, à cause d'une crise du Rimi. Et dans l'attente d'un conseil de révision, il se met à l'étude de Kant, hein, Emmanuel Kant. Les horreurs de la guerre, dont il a été témoin, ça le laisse écœuré, découragé. Ça l'incite peu à peu à se dégager d'une tendance à l'idéologie quand même, à l'utopie, au rêve. Et on pourrait dire qu'il sort petit à petit de l'adolescence. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu de rêve, hein, quand on est adolescent. Et c'est alors que se produit le choc qui va déterminer son redressement intérieur. Toute l'orientation de sa vie. Un soir d'octobre, écoutez bien ça, en 1915, c'est assez extraordinaire. Il se trouve chez des amis, puis il ouvre machinalement un livre déposé sur la table. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est l'histoire d'une âme de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est pas connue à ce temps-là, 1915, ou à peine. C'est Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est pas canonisée. attiré par le portrait de la jeune Carmélite. Vous vous souvenez de son portrait, hein, cette tête extraordinaire qu'elle a. Moi, je fais toutes mes émissions devant un portrait de Thérèse l'Enfant Jésus. J'aime cette tête extraordinaire. Attiré par le portrait, donc, il emporte le livre tout songeur. Et pendant des semaines, il lit et relit la vie de cette religieuse, qui n'est pas encore canonisée, comme je lui ai dit. Elle est inconnue de la plupart des gens. Et il écrit, « Il me semblait de plus en plus chaque jour qu'une vie nouvelle m'envahissait sans que je puisse m'y opposer. » Une vie nouvelle? Oui, la vie qui sort de ce livre. Alors, de l'incroyance, il revient vers Dieu, vers le Dieu de la foi chrétienne. Là, il y a toute une correspondance avec son ami, le poète Bataille, qui est incroyant, qui est réfugié à Rouen. Ça en témoigne. Heureusement, les lettres ont été conservées. Maurice Bataille n'a pas du tout la foi. Alors, Jacques Froissart, le futur Bruno de Jésus-Marie, lui écrit en novembre 1915, « Je suis toujours le même anarchiste, le même socialiste, oui, le même positiviste et le même idéaliste. Mais cette fois, j'ai bondi plus haut. Je suis encore très loin d'être moine. N'empêche que Dieu et le Christ sont ravissants. » N'empêche que Dieu et le Christ sont ravissants. Quand on a la bonne volonté de les contempler. Il termine en s'adressant à son ami athée. Essaie donc. Au même Maurice Bataille, le 23 novembre, à propos du Christ, il écrit « Tout mon cœur va vers lui, mais il fallait s'y attendre, ma pauvre cervelle se rebelle. Je souffre de cela. Je vais évidemment souffrir de plus en plus. Oui, il me faut un guide. Alors je prends Pascal, Blaise Pascal, celui des pensées. Il est terrible et profond. Il me demande de faire un acte de foi. Évidemment, mon cœur a des raisons que ma raison ne connaîtra jamais, mais cela suffit-il pour indiquer son « moi » Ce serait un acte d'humilité impossible. Et pour l'instant, au moins. Il y a tant d'objections, je veux être consciencieux. Je les étudie. Beaucoup d'entre elles, de ces pensées, se sont écroulées au seul fait que j'aime. Ne crains pas de me jeter les plus terribles objections. Je sens la nécessité absolue de les réfuter. Ne me dis pas que la science y répondra. Non, la science ne prouvera rien, même si elle prouve notre origine simiesque, en somme que nous descendons des singes. Il termine en disant, « Je sais que seul Dieu, s'il existe, peut donner la foi. Mais nous pouvons nous humilier. À la lui demander, bien qu'il soit, comme tu dis, sur un âne. » Nous allons maintenant écouter que Jésus, n'est-ce pas, est entré sur un âne et l'autre, l'athée, se moque de ça. Alors Jacques Froissart ne se contente pas évidemment de l'histoire d'une âme, il ouvre maintenant l'Évangile. Il interroge l'Évangile et il est bouleversé par la personne et la doctrine du Christ. Alors, on peut dire que le mouvement de conversion se confirme chez lui, puis à 22 ans, au début de décembre 1915... Il écrit à la révérende mère Agnès de Jésus, ça vous dit quelque chose? C'est la prieure du Carmel de Lisieux, c'est la sœur aînée de sœur Thérèse l'Enfant Jésus. Il lui raconte le changement survenu en lui sous le choc de sa rencontre avec l'histoire d'une âme. Il écrit, que dirais-je de cet ouvrage? Aucun livre, fût-il d'un maître, ne m'a jamais causé une telle impression bienfaisante. Au milieu de décembre, il rencontre l'abbé Montuit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il reçoit de lui le sacrement de pénitence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation. Il confesse ses fautes qu'il reconnaît devant Dieu, et au nom de Dieu lui-même, au nom du Christ, le prêtre lui pardonne. Le jour de Noël 1915, il participe avec beaucoup de joie. À l'Eucharistie, il communie, il reçoit Jésus, Jésus-Christ. Du 7 janvier au 3 juillet 1916, à Rouen, où il vit alors, il écrit 53 soliloques. Il y a de belles choses dans ces soliloques. C'est l'expression de la ferveur religieuse sensible et tendue de ce nouveau converti, jeune. C'est ça qu'on découvre. Il y a aussi un cheminement rapide vers la vie religieuse des carmes, la vie religieuse carmélitaine, comme on dit. Et Jacques Froissart a des contacts fréquents avec le Carmel de Bois-Guillaume, mais il s'informe aussi, il hésite auprès des franciscains parce que il déclare « Saint Jean de la Croix me séduit et Saint François d'Assise m'exalte ». Alors il interroge enfin un bénédictin de la pierre qui vire. Ah, connaissez-vous la pierre qui vire? Quand je suis parti à 24 ans pour l'Europe, c'est là que je voulais rentrer. Mais c'était tellement froid, je n'ai pas pu rester. Je le regrette bien, parce que c'est quel monastère merveilleux. Et ce bénédictin de la pierre qui vire est aumônier des bénédictines, car ça prend toujours un aumônier bénédictin dans un monastère de bénédictines. Ils sont prêtés pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans parfois. Les pauvres bénédictins sont séparés de leur monastère et vivent comme des ermites auprès des bénédictines. Alors il est aumônier des bénédictines du Saint-Sacrement de Rouen. Alors, puis le 16 juillet 1916, au Carmel de Pontoise, Jacques Froissart est reçu, finalement, après les conseils probablement de ce bénédictin, par le très révérend père Grégoire de Saint-Joseph, provincial des Carmes. Il avait demandé en mars une audience, et ça a pris 4 mois pour avoir l'audience auprès du très révérend père Grégoire de Saint-Joseph, le provincial. Il expose les motifs religieux qui lui font opter pour l'ordre des Carmes. Et le père Grégoire juge la vocation sérieuse. La décision est prise tout de suite. Il pourra entrer au noviciat de Monte-Carlo, dans le sud de la France, comme vous savez, à Noël. Donc 5 mois plus tard, c'est à l'occasion de cette venue au Carmel de Pontoise que Jacques Froissart entend parler d'une carmélite. Une carmélite qui est la sœur d'un prêtre, de l'abbé Cousin, son ancien professeur à Notre-Dame-des-Dunes de Dunkerque. Il s'agit de la fameuse révérende mère, Marie-Thérèse, professe du monastère de Pontoise. Professe, ça veut dire qu'elle a émis ses vœux là, dans ce Carmel, et qui depuis peu a rejoint le Carmel d'Avignon. Monsieur l'abbé Cousin, dont je viens de vous parler, il y a quelques mois a recommandé instamment à la prière du Carmel de Pontoise son ancien élève, dont l'évolution l'a toujours inquiété, Jacques Froissart. Et Jacques Froissart ignore ça, comme il ignore combien Mère Marie-Thérèse prie continuellement pour lui. Il remercie en passant les carmélites, les rédemptoristines, les recluses, les clarisses qui prient pour moi. Le 24 juillet, il lui écrit, c'est une belle amitié spirituelle, très intime, qui va unir Marie-Thérèse et lui. Alors il lui écrit, et Marie-Thérèse aura une profonde influence sur Jacques Froissart et va l'aider à la réalisation de sa vocation de carme et de prêtre. Et son entrée au noviciat a lieu donc à la fin de décembre 1916, à 24 ans. Et le 2 janvier 1917, Jacques Froissart reçoit enfin l'habit religieux, brun, là, des carmes. Et il prend le nom de frère Bruno de Jésus-Marie. Les carmes ont ce qu'on appelle des noms de religion, que souvent ils portent toujours. Quelques mois plus tard, sa santé n'est plus très bonne, il doit interrompre son noviciat et quitter. Mais il renonce pas pour autant à son désir de devenir carme. Ce n'est que temporaire, et sur le conseil de Mère Marie-Thérèse, qui le met en rapport avec le révérend père Garrigou-Lagrange, fameux dominicain professeur de théologie au collège angélique, ou l'angélicum comme on dit, il se rend à Rome. Il va suivre les cours de l'angélicum durant 3 ans, 2 années de philosophie, 1 année de théologie. Et c'est à cette époque que Mère Marie-Thérèse lui fait rencontrer Jacques et Raïcha Maritain. J'ai justement trouvé dans le carnet de notes de Jacques Maritain, paru en 1964, doit deux ans après la mort du bon père, à la page 122, Maritain écrit « Raïcha et moi partîmes pour Rome le mardi 26 mars 1918 sans projeter rien de défini, sinon de soumettre mon manuscrit au père Garrigou-Lagrange et de lui demander conseil. Le voyage en ce temps de guerre fut excessivement long et nous craignons fort d'être encore retardés à la frontière italienne si la douane avait l'idée d'examiner mon volumineux manuscrit. Celui-ci était au fond d'une valise et les douaniers ne l'ont pas vu. » À la gare, notre ami Jacques Froissart, le futur père Bruno de Jésus-Marie, nous attendait. Il était déjà entré chez les Carmes, mais sur le conseil de Mère Marie-Thérèse, avait repris l'habit laïque pour faire ses études à l'Angélicum. Il fut notre guide pendant tout notre séjour, et grâce à lui, cette première visite à Rome fut pour nous un inoubliable pèlerinage aux basiliques où reposent tant de martyrs, aux catacombes, à la chambre où mourut Saint-Benoît Labre. Et ça vous rappelle des souvenirs? Et une longue et grande amitié, donc, va naître de cette rencontre. Puis le 14 septembre 1920, le frère Bruno, qui a maintenant 28 ans, prend de nouveau l'habit religieux au noviciat des Carmes d'Avon, à Fontainebleau. J'ai déjà fait une belle retraite d'une semaine auprès de ces Carmes merveilleux. Ah, que j'ai rencontré des religieux qui m'ont plu. Un an plus tard, le 15 septembre 1921, il prononce ses premiers vœux de vie religieuse. Le 14 juin 1924, il est ordonné prêtre dans la chapelle des facultés catholiques de Lille, dans le nord de la France, là. En octobre 1925, le père Bruno est envoyé à Paris à la résidence de la rue Schaeffer, qu'il aimait beaucoup. Et c'est alors qu'il entreprend une importante biographie, comme je vous ai dit au début de l'émission, de Saint-Jean de la Croix, qui va paraître en 1929 chez Plon, dans la fameuse collection Le Roseau d'Or, avec une préface de Jacques Maritain. Il y a là 21 gravures, je l'ai feuilleté encore, je l'avais relié à l'époque quand je l'ai acheté, tellement j'aimais ça. 21 gravures hors texte, un fac-similé d'une lettre de Saint-Jean de la Croix, et une carte, et plus de 100 pages de notes, etc. C'est fantastique. Et dès cette époque, il prend la direction d'une fraternité du tiers-ordre carmélitain. Puis en 1929, il institue à Paris ce qu'on appelle dans l'ordre une école de raison, où il donne de nombreuses conférences, apprendre à pratiquer l'oraison. Et sa présence à Paris lui permet de se rendre souvent à Meudon, chez les Maritains, à des réunions. Il rencontre beaucoup de ceux qui vont devenir, oui, qui vont devenir par la suite ses collaborateurs, car en 1930, en effet, le père Bruno devient directeur des études carmélitaines. Et c'est ainsi que, sous la direction du père Bruno, les problèmes les plus intéressants, voire les plus brûlants, les plus délicats de la psychologie religieuse vont donc être abordés dans ces études carmélitaines, qui est une revue extra, mais c'est plus qu'une revue, c'est incroyable, c'est une énorme chose. Et il va travailler avec la collaboration de philosophes, de théologiens, d'historiens des religions, des médecins neurologues, des psychiatres, des psychanalystes, des poètes, des hommes de lettres. Je pourrais vous donner des noms. C'est incroyable, tous les grands noms qui ont travaillé avec lui dans les études carmélitaines. Je vous disais qu'il avait collaboré avec des gens de toutes sortes. Il a collaboré aux études carmélitaines avec Germain Bazin, Charles Dubos, Michel Carouge, Paul Claudel, Françoise Dolto, Mircea Eliade, Pierre-Emmanuel, Regina Garrigou-Lagrange, Henri Guéon, Agostino Gemelli, dont je vais vous parler bientôt, ce franciscain étonnant, converti encore. Étienne de Greff, Stanislas Fumet, Olivier Lacombe, etc. Jacques Maritain, évidemment, Louis Massignon, etc., etc. C'est absolument fantastique. Ça va jusqu'à Gustave Thibon. C'est évidemment tout ça beaucoup plus intéressant à lire que bien des choses qu'on s'amuse à lire, là, de Jacques Godbout, Michel Tremblay, etc. C'est fascinant à lire que les études carmélitaines. Je pense simplement à Ma joie terrestre, où donc es-tu, paru en 1947, qui a fait mes délices je ne sais combien de fois. C'est passionnant, passionnant, passionnant. Hein? Pour le père Bruno de Jésus-Marie, l'engagement donc dans ses travaux relève d'une mission. Une mission à la fois personnelle et collective. Hein? C'est une mission personnelle parce qu'il cherche une réponse aux questions que lui pose sa propre existence. Mission collective aussi parce qu'il est le fils des maîtres fantastiques de la mystique chrétienne, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila. Il est convaincu de la fécondité de cette spiritualité du Carmel. Très grande spiritualité. Cette spiritualité qui est attentive au caractère personnel des relations entre Dieu et l'homme. Y a-t-il quelque chose de plus important? On lit toutes sortes de balivernes. Quand on peut lire ces choses et tomber à genoux, mon Dieu, on perd son temps. À partir de 1935, les études carmélitaines commencent à publier des volumes de synthèse. Écoutez bien ces titres, je vous en donne une dizaine pour vous donner le goût. la vie carmélitaine. Mystique, culture et humanisme. C'est ce qui nous manque au Québec. Mystique, culture et humanisme. Psychologie et mystique de l'amour. Douleur et stigmatisation. Foi et mystiques humaines. Illumination et sécheresse. L'esprit et la vie. Nuit mystique, nature et grâce, sainteté et folie, etc. Le risque chrétien. Puis, finalement, arrive la guerre, alors il y a un silence de 6 ans. Les études carmélitaines vont reparaître en 1946. Et sans négliger d'autres recherches, les études carmélitaines s'ouvrent avec courage et probité scientifique aux données difficiles de la psychanalyse. Elles vont contribuer à leur compréhension dans les milieux intellectuels catholiques, ce qui n'est pas facile. Puis paraissent des volumes comme « Amour et violence »,« Ma joie terrestre, où donc es-tu ?» 1947. « Satan », fascinant. « Troubles et lumières »,« Technique et contemplation », »,« Le cœur », qui m'a souvent inspiré pour certaines émissions ici, « Direction spirituelle et psychologie », Magie des extrêmes, qui n'est pas facile. Il n'est pas très gros, ce volume, il n'est pas très gros comparé aux autres. Il y a 225 pages. Mais c'est extrêmement difficile à lire, mais très intéressant quand même, Magie des extrêmes. Puis mystique et continence, on ne parle plus de ça, mystique et continence. Limite de l'humain, nos sens et Dieu, etc., etc. Je ne peux pas faire la liste, il y en a. Ce que le père Bruno affirme sur le plan de la pensée, il l'a réalisé dans ses rapports humains. Il s'attache toujours à chercher la vérité où qu'elle soit. C'est pourquoi, à la suggestion du révérend père Jim Elley, dont je vous parlerai bientôt, franciscain recteur de l'Université du Sacré-Cœur à Milan, qui va toujours lui apporter son appui et son encouragement, il organise, le père Bruno, à partir de 1935, des congrès internationaux de psychologie religieuse, très délicat, hein. On y rencontre des hommes les plus différents par leur spécialisation et leurs croyances aussi. Une inquiétude de la vérité donne aux discussions scientifiques un caractère d'amitié. Ceux qui l'interrogent, là, ne deviennent pas seulement les collaborateurs d'un livre, mais les amis de sa recherche. Il se fait beaucoup d'amis. Il a été, dans les dernières années de leur vie, d'ailleurs, le confident de Camille Bellegue et de Paul Claudel. Il avait, le père Bruno, ce vrai charisme de la rencontre, l'autorité très grande, la confiance aussi que ses travaux personnels ou les publications qu'il dirigeait lui avaient acquises, ça l'a amené, ça, souvent à tenir un rôle de conseiller très important. Par exemple, dans l'Association catholique internationale pour l'étude des problèmes médico-psychologiques. Écoutez bien que sa sagesse consiste, alors, à vouloir et à faire admettre dans l'Église cet important dialogue, nécessaire, parfois urgent, avec la psychologie des profondeurs et ses techniques de thérapie. Mais, il réclame que les techniques, qu'elles soient toujours soucieuses de sauvegarder l'être spirituel de l'homme, très important. Et il croit que dans un mouvement catholique de psychologie, les données fondamentales de la foi chrétienne touchant la conception qu'on se fait de l'homme soient nettement et intelligemment affirmées, hein, les données fondamentales de la foi chrétienne. Faut pas balayer ça. Il y a des gens qui vont voir des psychiatres ou des psychologues qui n'ont absolument pas la foi et qui la méprisent. Très dangereux, c'est un gouffre. Il dit, à un moment donné, au 4e congrès catholique international de psychologie clinique et de psychothérapie en Hollande en 1952, il déclare, le père Bruno de Jésus-Marie, Carme, « Quand on a mission d'aider l'homme à débrouiller ses problèmes intérieurs, écoutez bien, ce serait lui nuire que de ne pas garder par-delà l'exacte perception de ses conflits la présence de son être spirituel. Faudrait afficher ça partout. Je le répète, quand on a mission d'aider l'homme à débrouiller ses problèmes intérieurs, ce serait lui nuire que de ne pas garder, par-delà l'exacte perception de ses conflits, la présence de son être spirituel. C'est à cause de cette phrase que je fais cette émission aujourd'hui. Lors du 25e anniversaire des nouvelles études carmélitaines en 56, il s'adressant au père Bruno de Jésus-Marie, le professeur de greffe, pouvait dire, vous avez eu cette forme de courage extraordinaire d'entreprendre ce que vous avez entrepris, de tout mettre en jeu, de tout risquer, sans savoir exactement où vous alliez, sans connaître tout ce à quoi vous vous engagez, mais le pressentant. C'était le courage simple, ajoute-t-il, le courage pur, le vrai, d'un homme devant les problèmes dans lesquels nous étions tous engagés, le courage qui consistait à exprimer toutes les données d'une question et à donner aux autres du même coup la faculté de se regarder sincèrement. C'est très important. Termine en disant, en permettant aux hommes très différents de s'exprimer dans la bonne foi, vous leur avez donné la possibilité de sentir que nous étions, au fond, un esprit en mouvement, nous étions en création continue, que nous participions à quelque chose de valable, de solide, de grand, en communauté avec de nombreux esprits orientés un peu différemment, et que notre foi, notre problème religieux, doivent être vécus dans cette création et ne peuvent être réduits à un geste intérieur. Ils doivent représenter un message, notre appel à une vérité, notre mouvement vers la découverte de l'absolu. D'ailleurs, on trouve dans la grande revue des Jésuites études un beau texte du père Bernard, je vous ne lis pas au complet, je ne lis qu'une phrase. Si la mystique la plus pure attire aujourd'hui tant d'âmes, c'est en partie aux études carmélitaines qu'on le doit, tant il est vrai qu'un discernement exigeant est toujours au service de la vérité. Alors, en connexion avec sa tâche de directeur et de rédacteur aux études carmélitaines, le père Bruno laisse une œuvre écrite d'historien. Mais il ne pensait pas qu'une biographie de saint soit complète sans qu'une large place n'y soit faite à l'étude psychologique. Et la critique unanime avait souligné l'importance de son Saint Jean de la Croix dont je vous ai parlé en 1929. Et en 1936, il résume son travail et se propose de mettre en relief la physionomie puis la mission évangélique du saint. Il écrit « Vie d'amour de Saint Jean de la Croix ». Malheureusement, je ne l'ai pas lu. En 1942, paraît la belle Acarie, bienheureuse Marie de l'Incarnation, pas la nôtre, celle de France, là. Biographie très fouillée, où le père Bruno entend montrer, quoi, que la vie spirituelle la plus haute se mène d'un bout à l'autre dans une psychologie humaine qui conserve ses traits propres et que la sainteté peut s'épanouir dans une authentique vie de femme mariée, d'épouse. Et ce livre, dont le but est très audacieux pour l'époque, puis l'écriture souvent passionnée, parce que c'est un passionné que Jacques Froissart, Bruno de Jésus-Marie, ça va déclencher de violentes polémiques. Peu importe, passons là-dessus. En 1954, paraît « Le sang du Carmel » ou « La véritable passion des 16 carmélites de Compiègne » dont je vous ai déjà parlé. J'ai déjà consacré une émission là-dessus. Le père Bruno présente dans sa perspective religieuse, puis il livre le dossier historique complet là, de ces carmélites, du drame qui avait suggéré à Georges Bernanos la fiction du dialogue des carmélites, qui a eu un grand succès, et aussi l'œuvre de la grande romancière allemande Gertrude von Lefort, « La dernière à l'échafaud », que vous avez probablement lu plusieurs d'entre vous. En novembre 61, enfin, après plusieurs autres travaux, il réédite dans la collection des études carmélitaines, puis après une minutieuse mise au point, comme je vous ai dit plus tôt, son Saint Jean de la Croix de 1929. Jusqu'en septembre 1962, au moment de sa mort, il travaille à son bureau. Il met en chantier un nouveau volume collectif de ses études sur les problèmes de l'interdit et la transgression. Grave problème. Il prépare la publication d'un dernier volume sur Sainte Thérèse d'Avila par Olivier Leroy. Là. C'est extrêmement passionnant à lire. Et il songe surtout à rédiger une vie de Mère Marie-Thérèse d'Avignon, là, celle qu'il a connue. Et quand on pense à ça, les six livres comprennent plus de 3000 pages très denses, très sérieuses. Hein? Et c'est au cours de ces travaux que la maladie le mine, puis l'oblige à s'arrêter. Bien des indices, d'ailleurs, laissent deviner qu'il se savait depuis des mois atteint d'un mal incurable. Il va lutter jusqu'au bout. C'est un solide. Il traverse de très douloureuses crises d'angoisse cardiaque. Mais il garde toute sa lucidité. C'est un homme exceptionnel et vers la fin de sa vie, et de plus en plus nettement au fur et à mesure qu'il s'approchait du terme. Il se produit chez lui un retour aux sources de sa jeunesse spirituelle, puis un élargissement de son horizon. Faut pas oublier que c'est en lisant l'histoire d'une âme, de sa conversion, a été la rencontre avec une personne vivante, le Christ, et non pas avec une idée ou un souvenir refroidi. Cette rencontre a marqué toute sa vie, hein. Il revient ça. Et maintenant, maintenir intact dans l'Église le sens de la transcendance du Seigneur, mort et ressuscité, maintenir notre relation personnelle avec lui à l'abri de toute exaltation sensible, comme de tout scepticisme, ça a été la mission du Père Bruno. Parce que c'est celle de son ordre religieux, hein. Cette mission, il l'a remplie un peu comme un prophète, comme le prophète Élie, qui tient une si grande place dans sa synthèse spirituelle. Alors, je vous rappelle que quand Jacques Froissart, le futur carme, qui prend le nom de Père Bruno, à environ 23 ans, il découvre l'histoire d'une âme de Thérèse l'Enfant Jésus, et selon sa propre expression, c'est le coup de foudre. Cette sainte de Lisieux le conduit au Christ. Elle lui donne aussi de trouver un équilibre intérieur où toutes ses puissances contradictoires trouvent leur juste emploi, comme le dit si bien le père Lucien-Marie de Saint-Joseph. Durant les derniers mois de sa vie, ces derniers mois qu'il a la consolation de passer rue Schaeffer à Paris, entouré de soins fraternels, il était très sensible à la fraternité des carmes, ses frères. Il y a un apaisement évident qui fait présager que l'heure de l'achèvement de sa vie approche ici-bas. Hein. Il se fait en lui comme une espèce de synthèse. Plus sereine, on peut dire, parce que c'est un homme qui avait ses moments d'impatience. Une synthèse plus sereine de tout ce que Dieu lui a donné depuis sa conversion. Il travaille à une biographie, je vous l'ai dit, de Mère Marie-Thérèse d'Avignon. Et elle joue un rôle dans sa propre évolution spirituelle. Parce que dans le calme du soir, il est amené à revoir dans le détail tout son propre itinéraire spirituel, parce qu'elle a eu une influence sur lui au début. Elle a beaucoup prié pour lui. Alors, il revit tout ça avec intensité, puis il revit peut-être surtout les mois décisifs de sa conversion sous l'influence de Thérèse de l'Enfant Jésus. En dépit d'un fond d'inquiétude qui demeure, c'est normal. Il retrouve là comme le roc solide là, de l'appel personnel de Dieu. On le trouve durant des jours entiers, c'est assez extraordinaire, comme plongé dans les documents de cette époque, et peu à peu, la paix grandit. Il y a une lucidité courageuse sur lui-même. Ça lui fait voir et accepter tout ce qui lui a manqué, tout ce qu'il se reproche aussi, sans chercher aucune échappatoire, ni aucune compensation tranquillisante. Il assume vraiment sa vie devant Dieu. Pas l'étonnement de plus d'une personne, hein, il demande lui-même l'extrême onction, ce qui était rare. À l'époque, on recevait l'extrême onction, le sacrement des malades, à 2 secondes avant de mourir, presque. Il la demande plusieurs semaines avant sa mort, puis il l'obtient. Il a encore des heures difficiles, mais il se reprend. Il connaît des moments de paix, où il se confie, s'exprime comme jamais auparavant. Il ne l'a fait. Et c'est sans passion. Un observateur attentif ne s'y est pas trompé. Vous avez remarqué qu'il allait vers Dieu, le père Bruno, porté par la même grâce qu'il l'a arraché au pessimisme nihiliste de ses 20 ans, quand il était disciple de Nietzsche, de l'anarchie et de toutes ces choses destructrices. Longtemps, au prix d'efforts considérables, il célèbre la messe, assis dans son fauteuil jusqu'à quelques jours de sa mort. Il est heureux de pouvoir la célébrer et jusqu'au dernier jour, il communie. mais il regrette de ne pouvoir être présent à Dieu comme il l'aurait désiré. Le 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d'Avila, c'est sa dernière journée entière sur cette terre. Il était attentif, très attentif à tous ceux qui l'entouraient. Dans, très lucide, là, il ne manifeste plus d'angoisse, cette espèce d'angoisse tyrannique qui précède la mort souvent chez nous, les êtres humains. Affectueux, répondant aux invocations qu'on lui suggère, hein, à l'oreille, il reconnaît la qualité des soins qu'il reçoit, qu'on lui prodigue avec tant de dévouement. Et son dernier mot à son provincial qui lui annonce qu'il va célébrer ici même, en ce soir de Sainte-Thérèse d'Avila, la messe de la Sainte Mère, comme on l'appelle chez les Carmes, à ses intentions, c'est pour murmurer « Ah, notre Mère, Sainte-Thérèse ». Et un peu plus tard, ses derniers mots intelligibles sont les suivants. Merci, merci, merci à tout le monde. Et un jour comme celui-ci, tout le monde lui répond, merci à vous, Père Bruno. Et Dieu a son secret, le Père Bruno l'a bien servi, ainsi que l'Ordre du Carmel. Il écrivait en 1945, il me semble être plus proche de Dieu qu'il y a 25 ans. Prions. Confiant qu'il est désormais proche de Dieu pour toujours, pour toujours. Aux premières heures du 16 octobre, il passait de ce monde à l'éternité. Et depuis le 19 octobre 1962, jour de ses funérailles, le corps du Père Bruno de Jésus-Marie repose au cimetière conventuel du couvent des Carmes, là, à Avon. C'est au bout du parc du château de Fontainebleau. Pour aller vénérer au besoin. Cet homme de Dieu, ce grand converti, qui a fourni à l'Église, grâce à ses travaux au sein des études carmélitaines, des trésors énormes, énormes. Ici Raymond Beaugrand-Champagne, qui est très heureux d'avoir consacré cette heure au Père Bruno de Jésus-Marie, carme, prêtre, décédé à 70 ans en 1962.